Womanop, le rendez-vous de l'empowerment féminin avec Edith Broubleu, 14h-15h sur Life Radio 107.7.
Lydia Aoré est une jeune femme active dans le domaine de la protection environnementale et passionnée de voyages et de découvertes culturelles. Il y a quelques mois, elle apprend une nouvelle qui va changer ses projets. Son médecin lui annonce qu'elle a une trentaine de fibromes dans et à l'extérieur de son utérus. Les diagnostics prévoyaient de lui faire subir une intervention chirurgicale pour lui retirer le réceptacle de la vie. Après un second avis médical, elle découvre qu'elle peut subir une embolisation qui lui vaudra moins de temps de convalescence, d'hospitalisation et préservera son utérus. Embolisation, une autre technique médicale pour pouvoir voir ses fibromes disparaître. C'est le sujet d'aujourd'hui. On va parler de l'expérience de notre invité. On va parler de la possibilité pour les femmes de guérir de fibromes grâce à cette technique médicale, et ça sera grâce au témoignage de notre invité du jour. Restez connectés, vous êtes bien sur Life Radio, la 107.7, et bien sûr, vous suivez Womanop, l'émission des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. On se retrouve dans quelques minutes.
Womanop, le rendez-vous du leadership féminin. Womanop, entre elles.
Bonsoir, bonsoir, et vous êtes bien sur Life Radio et vous suivez Womanop, l'émission des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et c'est toujours un plaisir de passer ces une heure de temps avec vous, chères auditrices et auditeurs. Et je reçois donc cet après-midi Lydia Aoré, donc qui est notre invitée du jour, et avec elle on va parler de son expérience avec les fibromes. Mais avant de parler de cette expérience qui a été d'une certaine manière déterminante pour elle et qui lui a permis de comprendre un peu tous ces aspects qui sont méconnus du monde médical, quand je parle d'aspects méconnus du monde médical pour les femmes qui souffrent de cette pathologie, on va d'abord la présenter. Je vais d'abord la présenter. Et donc Lydia a 29 ans. Elle a 29 ans et elle a une maîtrise en bioanthropologie, spécialité protection environnementale. Tu vas nous expliquer ça un peu tout à l'heure. Et elle a mis en place une petite chaîne de stand de sandwicherie, donc en milieu universitaire. Ça, je trouve ça très bien, parce que j'ai reçu des jeunes filles qui faisaient aussi pareil, mais avec le café en milieu universitaire. Et à côté de cela, tu poursuis donc tes études dans d'autres formations. Et il y a 3 mois, tu travaillais comme responsable clientèle dans un institut de bien-être. Et voilà, tu as découvert un peu cette pathologie qu'on appelle fibrome. Alors, bienvenue Lydia. C'est ta première radio ?
Oui, c'est ma première radio.
C'est ta première radio.
Oui, oui.
Bienvenue alors. Alors, parlons de ce que tu fais au quotidien. Là, tu as parlé, j'ai dit que tu travailles dans un institut de bien-être il y a 3 mois et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période pour que je puisse te recevoir ici, pour que nous parlions de fibromes?
Ok, je menais ma vie tranquillement avec mes objectifs. J'avais commencé à avoir plusieurs opportunités qui se présentaient à moi. Parmi celles-ci, j'ai accepté un emploi comme responsable clientèle dans un institut de bien-être. À côté de ça, je gérais mes entreprises.
Ah, tes entreprises ? Ah
oui.
Non, Lydia, stop, pause, pause. Tu sais que quand on parle d'entreprise et de business et d'argent, tout de suite, mes oreilles s'ouvrent grand. Alors, quel type d'entreprise tu as ? On va faire une petite parenthèse là-dessus, parce que je sais que tu es une femme dynamique.
D'accord.
Et ça se voit tout de suite.
Mm-hmm. En fait, j'ai mis en place plusieurs stands de sandwicherie à travers les universités. Et j'ai plusieurs personnes qui travaillent pour moi, qui me permettent de ne pas vraiment être sur place pour travailler avec eux. Donc, je peux être à la maison. Et puis, mes employés travaillent, ils me font les points chaque soir. Donc, on a actuellement 3 stands.
Wow.
Voilà.
À l'université de Cocody ou dans...
À l'université de Cocody, un à la Riviera 2 à Mémoz.
Mm-hmm.
Et on avait un autre dans un chocoladrome, mais à cause de mes obligations professionnelles, mm-hmm, que je venais d'accepter dans l'institut, j'ai dû fermer parce que je n'avais vraiment plus le temps pour pouvoir tout gérer. Et puis, j'avais un personnel qui commençait à...
C'est difficile, hein, le personnel, les ressources humaines,
voilà,
c'est souvent compliqué à suivre quand on n'est pas là.
Voilà.
Et dans cette période, tu apprends au détour d'une d'une visite médicale que tu as des fibromes. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais déjà des symptômes qui t'ont amené chez le médecin ou c'était juste une visite de routine?
En fait, ce qui a fait que j'ai voulu être entrepreneur et j'ai pas travaillé pour des entreprises, c'est parce que j'avais un handicap. C'est-à-dire, pendant ma période menstruelle, je ne pouvais pas sortir de la maison parce que j'avais des règles tellement abondantes.
Oui.
Et je peux me réveiller même baignée dans mon sang.
Wow.
Voilà. Au début, je n'y prêtais pas trop attention parce que c'était seulement le deuxième jour de mon cycle menstruel.
Ok.
Le lendemain, tout allait normalement. Bon, je me suis dit, bon, c'est gérable. Je fais seulement un jour à la maison. Mais le truc, c'est que quand j'ai commencé à travailler pour une entreprise, j'avais des responsabilités. Je ne pouvais pas toujours prendre des permissions chaque deuxième jour de cycle, chaque mois pour dire non, je ne peux pas venir au travail. Non, ça ne marche pas comme ça.
Oui.
Donc, j'ai décidé de mettre fin à ça et d'aller consulter.
Et c'est lors de la consultation que...
Lors de la consultation, j'ai fait une échographie. Après mon échographie, l'échographe a dit que... fallait vraiment urgemment que je voie un gynécologue parce que j'ai de très gros fibromes qui affichaient à l'écran. Donc, j'étais en alerte. Et comme c'était vers la fin de l'année, j'ai dit, bon, je vais attendre après la fête et je vais aller consulter. Donc, je vais voir un gynécologue. Il me dit d'aller faire une IRM parce qu'il veut être plus précis dans son diagnostic.
Exactement.
Donc, je vais faire l'IRM. Et même celui qui fait l'IRM est choqué.
Il était choqué.
Il était choqué. Parce que ce qu'il a vu à l'écran l'a vraiment étonné. J'avais un utérus duplié par 7.
Wow.
De la taille normale. Une trentaine de fibromes qui avaient pris tout l'utérus, que ce soit dans l'utérus comme à l'extérieur de l'utérus.
Wow.
J'avais un ventre volumineux avant, mais je me suis dit, bon, toutes les filles d'Abidjan, on a le gros ventre.
J'ai un gros ventre.
Donc, peut-être que c'est l'attiqué, peut-être que c'est le glacier,
ça gère. Ce genre de choses.
Voilà, ça gère. Mais j'ai pas vraiment prêté attention aux symptômes où je me vidais de mon sang. J'ai pas vraiment prêté attention à ça, alors que c'était un gros...
signal d'alarme.
Voilà.
Pour revenir à la perte de sang abondante que tu as chaque deuxième jour de ton cycle menstruel, tu l'as toujours eu dès tes premières règles ou bien c'est arrivé à un moment donné de ta vie?
Non, c'est arrivé brusquement. Avant, j'avais mes règles qui faisaient 3-4 jours.
Mm-hmm.
Et puis après, j'ai commencé à avoir des règles qui duraient 5 jours. En fait, le truc, c'est que je suis tellement travailleuse, je suis tout le temps en train de penser au travail que je ne prêtais pas trop attention à ça, en fait.
Tu es une, comment dire en anglais, une workaholic. C'est que une maniaque du travail.
Voilà, je suis tout le temps en train de travailler, je me préoccupe même pas de moi-même, je suis tout le temps en train de travailler. Voilà, je suis tout le temps en train de travailler. J'ai jamais le temps, je suis tout le temps en train de travailler, tout le temps en train de faire quelque chose. Donc, je prêtais pas vraiment attention à ça. Et arrivé un moment, je remarquais que mes règles duraient 5 jours. Je me suis dit, bon, c'est tout à fait normal. Après 6, 7, et un jour, je suis allée faire des courses et j'étais arrêtée tout brusquement.
Waouh!
Mon pantalon s'est mouillé. Et ça coulait même des pieds, tout ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça?
Et ça, c'était hors de ta période menstruelle.
C'était pendant ma période menstruelle,
mais c'était carrément l'inondation.
Donc, j'ai couru, j'ai pris un taxi, je suis rentrée à la maison. Et puis, j'ai commencé à remarquer que chaque deuxième jour, j'ai des règles très, très abondantes. Donc, je me suis dit donc, que peut-être que les règles se concentraient le deuxième jour.
C'est ça.
Bon, parce qu'après, bon, il y avait plutôt plein de choses.
Exactement.
Voilà. J'avais pas de douleur, j'ai jamais eu de règles douloureuses. Donc, pour moi, bon. Chaque femme a sa particularité, donc peut-être que...
C'était normal.
C'était normal,
oui.
Voilà. Et après, mes règles ont commencé à faire 8 jours, 9 jours, 10 jours.
Et à cette époque, tu consultais déjà un gynécologue, je veux dire, une fois, peut-être chaque 3 mois, ou bien chaque 6 mois, ou ce genre de choses. Mais tu étais vraiment à fond, comme tu l'as dit, dans le travail. Tu n'avais pas le temps de consulter.
J'ai commencé maintenant à avoir des remarques. J'ai commencé à faire la remarque.
Ouais.
J'ai dit, bon, je vais consulter. Mais je remettais toujours à demain.
Si, si.
J'ai jamais le temps. Bon, si, demain, si. Je vais faire
je
après.
Je me mets à ta place. Je connais ça.
Voilà. Je me mettais toujours après. Et puis bon, voilà. Mais il s'est passé un truc, c'est qu'un jour, j'ai eu un saignement en dehors de mes règles.
Oui.
Et ça a attiré mon attention. Je me suis dit, j'avais eu mes règles il y avait 12 jours avant. Donc, c'était pas normal que j'ai mes règles maintenant. Mm. Parce que mon cycle est 28 jours. Chaque 28 jours, j'ai mon cycle.
Ça.
Je suis très réglée là-dessus. Donc, quand j'ai eu mes ce saignement-là, ça m'a paru bizarre, mais j'ai dit, bon, peut-être que ce sont les règles.
Mais peut-être que c'est le stress. Parce voilà, souvent, on a même nos règles en dehors de la période menstruelle parce qu'on a le stress, la fatigue ou d'autres choses.
Et j'ai eu de grosses contractions et après, c'est passé. J'ai eu des petits saignements et puis j'ai dit, bon, peut-être que ça va passer. Mais je me rends compte que plus on avance, j'ai des saignements, ça évolue. Et c'est ce jour-là, je suis allée voir un gynécologue. Il m'a dit, c'est bon, c'est juste un dérèglement hormonal. Hein.
Oui.
Voilà, donc il m'a juste donné des petits médicaments et puis bon.
Ma vie a continué.
J'ai continué ma vie tranquillement.
Et là, tu avais cette responsabilité dans le cadre professionnel. Et le fait que tu saignes abondamment le deuxième jour est devenu un handicap, finalement.
C'est devenu un handicap.
Et là, donc, tu fais, à la demande donc, de ton gynécologue, cette radio, cette échographie, et ensuite cette IRM. Et là, tu as le choc.
Voilà, j'ai le choc de ma vie.
L'annonce de ta vie, voilà. Des fibromes, une trentaine de fibromes. Et là, comment tu réagis? Tu te dis, mais. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais m'en sortir? Quelles sont les premières pensées qui te viennent en tête? Et déjà, est-ce que tu avais déjà entendu parler des fibromes dans ton entourage?
J'avais déjà entendu parler des fibromes, mais je me suis dit que c'était les autres.
Exactement, c'est toujours ce qu'on dit. Exactement.
Moi, en fait, lorsque je suis en face d'un danger, je reste calme.
Ouais.
Je reste sereine. Donc, la première chose que j'ai demandé au docteur, je lui ai demandé, je suis à quel stade? Il m'a dit que au stade où je suis, je peux même pas avoir un retard, je peux même pas avoir d'enfant, parce que tout l'utérus est envahi de fibromes. On ne peut rien faire. Mais ça sera très très compliqué aussi de m'opérer. Mais comme il n'est pas gynécologue, d'aller voir mon gynécologue pour qu'il fasse son diagnostic. Donc c'est comme ça, je suis partie voir le gynécologue. Je rappelle que je suis allée voir les meilleurs gynécologues.
Oui.
Voilà, je suis allée voir les meilleurs gynécologues parce que je
en question de santé, primordiale, faut, ouais.
Je veux pas jouer avec ma santé.
Ouais.
Je veux pas aller voir n'importe qui. Donc, je suis allée voir les meilleurs gynécologues. Donc, je suis allée avec mon IRM. Lorsqu'il a vu, il m'a dit que je suis désolée, mais je peux pas vous opérer. La seule opération que je peux vous faire, c'est vous faire une hystérectomie et une ablation complète de l'utérus.
Alors. Mais l'opération,
L'hystérectomie.
L'hystérectomie, j'y arrive. L'hystérectomie, c'est une opération chirurgicale. Non?
C'est une opération chirurgicale, mais c'est pour enlever complètement l'utérus. Alors que l'opération que je voulais faire, c'était juste qu'on enlève les fibromes.
Les fibromes, parce que la myomectomie. La myomectomie. J'ai toujours entendu parler dans mon entourage de femmes qui s'étaient faites, même ma grande sœur qui s'était fait retirer les fibromes. Donc une myomectomie, pour moi, c'était l'opération la plus courante pour enlever les fibromes, mais pas enlever complètement l'utérus.
Voilà. Donc lui m'a dit que lui ne peut pas s'amuser. La seule chose qu'il peut faire, c'est m'enlever complètement l'utérus parce que si il me fait une opération pour juste m'enlever les fibromes, je vais beaucoup saigner et on va devoir choisir entre ma vie et puis sauver mon utérus. Donc, on va forcément aboutir à une ablation de l'utérus. Donc, il préfère me dire en même temps qu'on fait une ablation de l'utérus plutôt que de me faire espérer pour rien.
Comment tu le regardes quand c'est comme ça? Comment tu te projettes parce que tu as 29 ans et tu apprends que la seule solution pour te sauver des fibromes, mais pour sauver même ta vie, c'est de te retirer ton utérus. Comment tu te projettes dans la vie tout de suite à cet instant précis? Qu'est-ce que tu te dis?
À cet instant, le docteur me met découragée.
C'est
je le regarde et puis je vois même pas de
comment je peux dire, de lueur d'espoir.
De lueur d'espoir dans ses yeux. Il n'arrive même pas à me regarder dans les yeux.
Waouh, voilà, c'était terrible.
Toute son équipe est là et ils ont les yeux baissés. Ils peuvent même pas me regarder.
Waouh.
Et je leur ai dit, ok. J'ai compris, on fera l'hystérectomie. Si c'est ce qui va me permettre de passer cette étape, il n'y a pas de problème, j'ai accepté.
Mais à cet instant précis, lorsqu'il te parlait d'hystérectomie, il t'avait présenté, est-ce qu'il y avait aussi des dangers pour l'hystérectomie?
Quand je lui ai dit l'hystérectomie,
c'est sûr à 100%?
Il m'a dit, beaucoup de femmes n'ont plus d'utérus, surtout en Côte d'Ivoire, que je n'avais pas à m'alerter, que c'est quelque chose de courant. C'est ce qu'il a dit pour me consoler. Voilà.
Il y a des mots aussi. En fait, les médecins, je pense qu'ils manquent de ce côté un peu psychologue, prise en charge des patients, parce que ils sont tellement habitués à voir des cas extrêmes et ils sont plongés dans leur quotidien que même pour avoir des mots d'empathie, même s'il faut dire la vérité, mais avoir des mots d'empathie par la suite pour motiver, encourager le patient, lui donner de la force, ils savent pas le faire, en fait. C'est dommage. Et donc, tu encaisses.
J'encaisse. Il me dit, tu n'as jamais fait d'enfant. Je dis, oui, j'ai jamais fait d'enfant. Il dit, ah, À 29 ans, on va débattre enlever l'utérus, mais t'inquiète pas, beaucoup de femmes n'ont plus d'utérus. Donc, je me lève. Mais avant, il me dit qu'il ne peut pas m'opérer sans un deuxième avis et que je dois aller voir un professeur en gynécologie. Mm-hmm. Donc, c'est celui-là que je vais voir. Mais j'avais déjà désespéré. Hein.
Ouais,
je me suis dit, bof.
Tu avais encaissé le coup, c'était la fin. Ouais,
j'avais déjà même commencé à suivre les témoignages des personnes qui ont plus d'utérus. J'étais déjà dedans, en fait.
C'est ça.
Donc, je vais voir le docteur parce que bon, c'est une procédure à suivre. Il faut forcément voir le professeur pour valider. Donc, je vais le voir. Il regarde. Et lui aussi me dit, on ne peut pas vous opérer. On ne peut pas vous opérer, mais vous avez 29 ans. Vous n'allez pas supporter l'hystérectomie. C'est une opération trop lourde pour vous.
Donc là, c'était un second avis médical, voilà, mais qui était complètement différent du premier. Mm-hmm. C'était une mise en garde contre l'hystérectomie.
Voilà. Il me disait que l'hystérectomie, il ne faudrait pas que je pense à ça parce que je ne pourrais pas supporter, en fait. À mon âge, à 29 ans, je n'ai pas d'enfant. Je ne sais pas de quoi serait fait l'avenir. Donc,
est-ce qu'il voulait pas, je veux dire, avec la posture de, mais il faut quand même lui donner une chance de pouvoir enfanter.
Voilà.
Il était un peu âgé, plus âgé que l'autre.
Très âgé.
Plus sage. Une position, paternelle, voilà. Et tout. Je pense qu'il voulait vraiment te dire, peut-être que c'est possible. On peut tenter quand même de te garder ton utérus.
Donc, il a regardé. Et c'est là que pour ma première fois de ma vie, j'ai su qu'il y avait une troisième alternative. Et pendant tout ce temps, j'avais jamais entendu parler de ça. Il m'a dit, on te fera une embolisation.
Je lui ai dit... Une embolisation.
Voilà. Il m'a dit, on te fera une embolisation. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, ça tombe bien parce que le professeur qui le fait vient me voir aujourd'hui et je vais te mettre en contact avec elle. Voilà. En fait, l'embolisation, c'est quoi? C'est le mettre des billes dans la terre qui nourrit les fibromes. En fait, les fibromes, ils se nourrissent de sang.
Ok.
C'est parce qu'on n'a pas encore fait d'enfant qu'on a des fibromes.
D'accord.
Donc, tout ce temps-là, quand on reste, on a nos règles, les fibromes commencent à prendre la place dans notre utérus.
Exactement.
Et nos règles les nourrissent. Ils ont besoin de sang pour grossir. Donc, c'est le sang qui fait qu'ils prennent du volume et ils sont à l'aise dans notre utérus. Ils se multiplient. Voilà, ils se multiplient. En fait, l'utérus, les fibromes, ce sont les bébés de l'utérus. C'est-à-dire, quand vous ne faites pas de bébés, l'utérus a horreur du vide, en fait.
Ok.
Donc, les fibromes commencent à prendre la place.
En fait, comme il n'y a pas de fécondation,
voilà.
Les fibromes, ils comblent cette absence de fécondation.
Ils comblent cette absence. Voilà.
Et ils remplissent l'utérus.
Ils remplissent l'utérus. Donc, ce qu'ils vont faire en embolisation, ils vont placer des billes dans les artères qui nourrissent les fibromes. Ils vont boucher ces artères-là et les fibromes ne pourront plus se nourrir. Et comme ils ne pourront plus se nourrir, ils vont mourir.
Et ça séchait d'une certaine manière? Ou bien, en tout cas, arrêter d'alimenter les...
Voilà, on arrête d'alimenter les fibromes. Les fibromes meurent tout seuls.
Oui.
Ils tombent sous forme de caillots de sang lors des règles. D'autres sortent comme de la glaire en dehors des règles. J'étais surpris.
Ça, c'est vraiment moins invasif, qu'une hystérectomie.
Oui, en fait, j'étais choquée parce qu'on m'a jamais parlé de ça, en fait.
Mais pareil pour moi, je n'ai jamais entendu
j'ai
parler.
J'ai jamais entendu, mais... J'allais partir me faire enlever l'utérus.
Alors qu'il y avait une solution possible.
Alors qu'il y avait une solution.
On va revenir sur la suite de cette histoire, de ton témoignage, de ce que tu as vécu.
D'accord.
Tu découvres qu'il y a une méthode alternative moins invasive et beaucoup plus simple, on va dire, sans exagérer, et qui te permet de quand même garder ton utérus et surtout d'éviter de perdre énormément de sang et d'éviter même les risques. Voilà. Lié à l'opération qu'est l'hystérectomie ou même la myomectomie, on va y arriver. On précise que nous ne sommes pas des spécialistes du monde médical, nous ne sommes pas des gynécologues. C'est une expérience qui est racontée par notre invitée du jour, Lydia Aouré, qui a vécu ça et qui veut partager également ce qu'elle a vécu avec d'autres femmes qui seraient dans cette situation et qui seraient peut-être désespérées parce que c'est une réalité qu'on entend au quotidien mais qu'on ne saisit pas réellement. Donc on revient juste après cette pause pour continuer la conversation qui est très intéressante et qui nous touche, nous les femmes, surtout les femmes noires. À tout de suite, on reste connectés.
Woman Up sur Life Radio. Woman Up, elle active.
Alors, nous sommes de retour donc pour la deuxième partie de cette émission et on apprend énormément avec notre invitée du jour, Lydia Aouré, qui nous parle de son expérience avec les fibromes et comment elle a pu grâce à une intervention chirurgicale non invasive, elle a pu se débarrasser de ses fibromes sans difficulté grâce au soutien et à l'accompagnement d'un médecin qui maîtrise cette technique en fait. Et je vais revenir avec quelques chiffres. En Côte d'Ivoire, on estime que 20% des femmes de 30 ans et 50% de celles de 40 à 50 ans portent un fibrome utérin. Et c'est la tumeur bénigne la plus courante chez la femme en âge de procréer. Et malheureusement, si elle n'est pas suivie, ils ne sont pas retirés ces fibromes, ils peuvent entraîner des complications pour la femme, et donc ça peut aller jusqu'à l'infertilité ou même à perdre son utérus. Exactement. Donc Lydia, tu nous parlais donc de cette étape dans laquelle tu te trouves avec ce second médecin.
Voilà.
Qui te donne la solution, qui t'explique qu'il y a une possibilité, à part l'hystérectomie et la myomectomie, il y a une autre solution qui est l'embolisation, et tu nous as expliqué un peu ce qu'était l'embolisation. Alors, tu as cette information, qu'est-ce qui se passe par la suite?
Ok, en fait, je tiens à préciser que c'est une professeure en gynécologie qui consulte, professeur Kone Mamourou.
Oui.
Voilà, bon, c'est lui qui m'a donné.
Merci d'avoir sauvé notre sœur,
de garder mon utérus.
Merci, professeur.
Donc, il me parle d'embolisation. Je dis, ok, il m'explique. Je comprends rien à tout ce qu'il dit. Donc, j'attends que la dame qui le fait vienne vers moi. Mm-hmm. Donc, elle arrive, je la rencontre. Il se trouve que c'est la chef du service de radiologie du CHU de Trècheville.
OK.
Madame Yapo Poulette.
On la salue également.
Ce jour-là, j'ai appris que c'est seulement en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique de l'Ouest, qu'on fait cette intervention.
Non. Non. C'est seulement en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique de l'Ouest,
oui,
qu'on fait cette intervention.
Wow. Oui.
Chapeau à la Côte d'Ivoire.
Voilà. Et c'est seulement elle qui le fait.
Waouh. Et c'est... Non. Là, je prends encore un autre choc, là. Donc, c'est cette femme, docteur, gynécologue.
Non, elle est radiologue.
Elle est radiologue. C'est cette femme qui est la seule femme et la seule praticienne.
Et la seule experte dans ce domaine.
Dans ce domaine, en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest.
Oui, oui. En Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest.
C'est une belle nouvelle pour les femmes aussi, même voilà. Nous, les féministes.
Elle le fait dans plusieurs hôpitaux.
Waouh, mais elle doit être extrêmement demandée. En tout cas, pour ceux qui savent, en Afrique de l'Ouest et tout, j'imagine qu'elle doit être vraiment sollicitée.
Oui, elle est vraiment sollicitée, mais dans la Côte d'Ivoire même, n'est pas...
Puisque l'information ne circule pas, en fait.
L'information ne circule pas. En fait, pour moi, je pense qu'elle n'est pas sollicitée. Mm-hmm. Pourquoi je le dis? Parce que... Il y a tellement de femmes qui souffrent de fibromes, qui vont se faire opérer.
C'est ça.
Et que si elles avaient l'information, je pense que ça allait déborder, quoi.
Ouais, exactement.
C'est vrai qu'actuellement, elle est débordée, mais je pense que elle devait être encore vraiment, vraiment plus débordée.
Et voilà. Là, la rencontre entre vous deux se fait...
Mais tranquillement. Elle est très maternelle.
Oui.
Elle m'a mis en confiance. Donc, elle me voit, regarde mon IRM. Elle dit, je peux le faire. Ça m'a donné une bouffée d'espoir.
Ouais, ça t'a motivé. J'ai dit, ouais, c'est possible.
Ça m'a motivé. Donc, on prend rendez-vous immédiatement le lundi. Je vais la voir. Elle me dit, OK, je peux vous faire l'intervention, mais vous devez faire quelques petits bilans. Mais j'étais au top sur tous mes...
Les bilans.
Sur tous mes bilans
de santé.
Voilà, au top sur tous mes bilans de santé. Donc, on prend rendez-vous 5 jours après. On le fait à l'Indénier. Donc, j'y vais le matin à 7h. À 9h, je rentre au bloc. Je rappelle que ce n'est pas une chirurgie. Donc, je me couche, on me fait des...
Une anesthésie locale,
voilà. Ouais. On fait tout ce qu'il faut faire, on me pose une sonde et tout. Et puis, j'assiste en direct à mon intervention. Voilà. Et moi-même, je parle avec eux pendant qu'ils sont en train de faire mon intervention.
Tu poses des questions.
Je pose des questions. C'est tranquille, en fait.
Lydia, elle est calme. Hein. Voilà. Vous la voyez, là, vous ne pouvez pas la voir. Moi, je la vois, mais tu sens qu'elle est posée, qu'elle garde son calme. Elle est d'une sérénité extrême, franchement. Et j'imagine dans la salle d'opération avec les médecins autour de toi, voilà. Et voir le retour caméra, donc, de ton opération. Je t'imagine tranquille. Ouais, ça va, on va juste me mettre un cathéter là et puis faire passer les choses à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur?
Voilà, déjà j'avais un rasage pubien.
Ah, ça tu vas pas échapper, ça,
voilà. Mais j'étais habillée. Oui. J'étais habillée seulement que à la partie pelvienne, j'étais
t'avais mis la blouse.
Voilà. Donc, on me fait juste une petite incision du côté du pubis, du côté de l'aine. Mm-hmm. Voilà. Et on fait passer un cathéter. C'est un petit tuyau. Mm-hmm. Et on cherche les artères qui nourrissent mes fibromes.
D'accord.
Voilà, parce que mes fibromes ont besoin de sang. Donc, il y a des artères qui passent sur l'utérus qui vont les nourrir.
Ok. Donc, et ils savent où ça se trouve exactement?
À la radio, vu qu'il y a une radio qui est là, mm-hmm. il y a une image qui est là. Donc, ils voient, parce qu'elle est, c'est une experte. Elle connaît son domaine.
C'est ça.
Voilà. Donc, ils font passer le cathéter. Je ne sens rien du tout. Je ne sens rien du tout.
L'anesthésie, elle s'est faite, comme on le fait dans le dos.
Oui, dans le dos.
C'est ça.
Voilà.
Donc, tes jambes étaient immobilisées,
toute ma partie inférieure, je sentais rien du tout. Rien du tout. Donc, je regarde à l'écran même le cathéter qui passe dans mon utérus. Voilà.
C'est impressionnant comme image quand même. Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois ça? Tu te dis, oh.
Voilà. En fait, le truc, c'est que ce qui m'a choqué pendant l'intervention, ils cherchaient mon utérus parce que l'utérus est tout petit. Mm-hmm. Mais ils ont trouvé le reste de mon utérus dans mon ventre, dans mon abdomen. C'est-à-dire que mon utérus était tellement gros.
Ça débordait tellement. Oui. Que c'était dans ton abdomen.
Dans mon abdomen.
Une foutue fibrome.
Voilà. Donc, ils ont tourné le cathéter. Ils sont allés jusqu'à dans mon ventre.
Mais moi, j'ai une question. Je veux dire, quand tu mangeais, au niveau de la digestion, est-ce que tu sentais des gènes?
Justement, moi, je pensais que j'avais un ulcère.
Waouh!
Parce que j'arrive pas à manger. Quand je mange un peu, je suis rassasiée et mon estomac me tord. J'arrive pas à digérer, en fait. Alors que c'était les fibromes qui avaient compressé mon estomac.
Waouh! Voilà. Et on peut-être beaucoup, hein, de femmes vivent ça, mais mm-hmm. on sait pas. Peut-être on vérifie pas. Peut-être mm-hmm. que même les gynécologues ne vont pas penser forcément à ça et tout. Ben, bref. Et tu es dans ta salle d'opération. Et qu'est-ce qui se passe par la suite?
Voilà, donc ils mettent les billes et ils bouchent les artères. Dès qu'ils bouchent les artères, tous les fibromes se figent tout d'un coup. Et j'avais des distorsions dans le ventre. Dès qu'on finit l'intervention, la dame me dit, c'est fini, on a fini.
Tout d'un coup, c'est fini. Voilà.
Mais tout d'un coup, c'est fini. Et je touche mon ventre. Il est mou, en fait.
Ok.
Je ne sens pas le fibrome qui était tout gros.
Tu sentais que c'était un peu dur avant l'opération?
Avant l'opération, c'était très dur. Mon ventre était très ballonné, était très gros.
Waouh.
Voilà. Donc, dès qu'ils ont fini l'intervention, je n'ai pas senti le fibrome qui était tout gros là à gauche. Je l'ai plus senti. Mon ventre était mou.
Libéré.
Voilà.
Délivré.
Voilà. J'étais choquée, en fait. Je dis, mais attends, comme ça, tout facilement.
Sans
qu'on me retire l'utérus. Mon utérus n'a pas été touché. Rien du tout. Donc, je vais dans ma salle pour
récupérer.
Pour récupérer.
La salle de réanimation.
Et vous savez ce que les docteurs font en premier lieu? Ils m'envoient un plat de riz avec une sauce.
Non.
Avec la salade.
Non. Tout de suite après l'opération, là?
Oui, tout de suite, là.
Attends, normalement, avant l'opération, tu es partie à jeûne, c'est ça?
Là, je suis à la jeûne. Mm-hmm. Donc,
tout de suite après, là, c'est que tu as vite récupéré? Normalement, une opération, on veut dire, dans le genre des opérations normales, c'est quoi, au bout de plusieurs heures?
Voilà. C'est une embolisation, il n'y a pas eu de cicatrice.
C'est ça.
C'est juste une petite piqûre là, ils ont juste mis un petit sparadrap et puis après, ils ont enlevé, il n'y a rien.
Il n'y a rien qui est resté.
On ne peut même pas savoir que. Donc, je rentre dans ma salle d'hospitalisation et c'est une salle double. J'ai une voisine. Par contre, ma voisine, elle a subi une opération.
Oh là là.
Elle est toute en souffrance, elle pleure, crie et tout. Et moi-même, ça m'a alertée parce que je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, j'ai fait une opération.
Oh là là.
Et elle me dit, mais on a fait la même chose, non? Pourquoi toi, tu es toute tranquille, tu manges tout ça alors que moi, on m'a interdit de manger, je ne peux pas manger.
Wow.
Pourquoi toi, tu es toute... Je dis, non, j'ai fait une embolisation. Elle dit, l'embolisation, c'est quoi? Je lui explique. Mm-hmm. Elle me dit, mais j'ai jamais été au courant.
Wow.
Si je savais, j'allais faire ça.
En fait, on n'avait pas le même médecin.
On n'avait pas le même médecin.
Oh, okay.
Voilà.
Elle a perdu son utérus comme ça.
Elle n'a pas perdu son utérus.
Ils ont enlevé.
Et ce qui est vraiment ironique des dents, c'est qu'elle n'avait que 4 fibromes. Alors que moi, j'avais une trentaine. Donc, elle est choquée. Elle me dit, tu avais 30 fibromes et tu es couché là comme s'il n'y a rien du tout.
Wow.
Et moi, j'avais que 4 fibromes. Je ne peux même pas me lever. Je suis toute en souffrance. Elle a pleuré toute la nuit. Elle était... Et c'est ce qui m'a touchée. Et je me suis dit, vraiment, beaucoup de personnes ne savent pas. Dans le même hôpital, il y avait une autre femme qui avait fait une opération, mais elle ne s'est pas réveillée.
Oh, non, oui. La même myomectomie, là?
Oui, elle a fait une opération, une myomectomie.
Oh, Seigneur.
Et voilà.
Terrible.
Dans la même période, elle ne s'est pas réveillée en salle de
réanimation.
Voilà.
Ça montre les dangers, en fait.
Voilà.
C'est
Donc, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a interpellée. Je me suis dit, si plusieurs femmes savaient qu'elles pouvaient faire une embolisation, elles allaient éviter de se faire opérer avec tout ce qui en découle. Et en plus, elles allaient même éviter même une hystérectomie. D'autres allaient éviter de perdre la vie.
Exactement.
Et voilà.
Et c'est le message que tu veux faire passer.
Oui, c'est le message que je veux faire passer. Quand j'étais en salle d'hospitalisation, j'étais tranquille, je regardais même mon film, tranquille.
Tu as quitté l'hôpital, tu as été libérée le...
J'ai été libérée le lendemain.
Le lendemain, mm-hmm. Rapidement.
Rapidement.
Tu n'as pas senti de douleur après, même à la maison
Quand l'effet de l'anesthésie est passé, j'ai commencé à sentir les douleurs.
Ça, c'est normal.
Parce que le fait qu'on mette une anesthésie, c'est parce que c'est très, très douloureux quand on passe des cathéters dans les artères. Donc, c'est très douloureux. Donc, quand l'effet de l'anesthésie est passé, j'ai commencé à sentir des contractions, des fortes contractions. J'avais mal et tout. Mon dos aussi, dans mon dos, j'avais mal. Mm-hmm. Et au bout de 2 ou 3 jours, c'est passé.
Tu as récupéré ta vie.
On m'a donné des antidouleurs qui ne me coûtaient rien, que 6 000 francs.
C'est ça.
Voilà. J'ai pris mes antidouleurs et au fur et à mesure, c'est passé. J'ai fait mon intervention, ça remonte qu'à 7 jours aujourd'hui.
Ah, ça fait 7 jours?
Oui, oui,
wow, ça fait 7 jours. Donc, on a l'exclusivité de te recevoir juste après ton opération, une semaine après ton opération.
Voilà. Aujourd'hui, ça fait le jour pour jour que j'ai fait mon embolisation.
Et tu as repris ta vie normale? Oui, tu es reparti au travail?
Pour le moment, je n'ai pas encore repris le travail. En fait, les fibromes ont fait que j'ai perdu mon travail.
Oh, ça, on va parler dans la suite de l'émission. Comment le monde du travail, quelle est la vision du monde du travail de tout ce qui est charge prémenstruelle que les femmes subissent chaque mois? Comment le monde du travail prend en charge cet aspect et surtout prend en charge les pathologies naturelles que rencontrent les femmes et qui, malheureusement, pour certaines, perdent leur travail à cause de cette méconnaissance de prise en charge pour ces pathologies. On va en revenir dans la suite de cette émission. Le sujet est très intéressant. On est dans la semaine, dans le mois de la femme. Je pense que c'est important que les tabous soient levés. Il faut donner la possibilité aux femmes de pouvoir s'épanouir en ayant la meilleure information. Et surtout, permettre à ces femmes de sauver leur vie parce que c'est très important. On se retrouve dans quelques instants. Vous êtes bien sur Woman Up, l'émission des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires et qui vivent aussi des choses extraordinaires et qui viennent en parler. Vous êtes bien sur Life Radio, la meilleure des radios. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite.
Woman Up sur Life Radio.
Nous sommes de retour pour la deuxième et on va dire la deuxième dernière partie de cette émission. Et on parlait donc de l'opération que tu as subie. On parlait également du fait que tu as dû arrêter de travailler. Tu as perdu ton emploi. Donc, une des conséquences aussi dans ta vie sociale que cette pathologie a malheureusement entraîné. Et moi, j'avais fait rapidement une digression sur la méconnaissance pour les entreprises, la prise en charge des problèmes menstruels des femmes, des difficultés qu'elles rencontrent. Mais rapidement, dans certains pays, ça c'est pour nos auditeurs et auditrices, dans certains pays comme l'Espagne, qui ce mois-ci a voté donc une loi pour des congés menstruels, ça c'est important de le savoir, pour des congés menstruels. Et je pense que de plus en plus, il faut que les entreprises, que nos pays également se saisissent de ce problème parce que les menstrues, c'est naturel. On est né avec, on n'a rien demandé, ce n'est pas quelque chose que nous avons causé. Il faut que les femmes puissent bénéficier de ces congés menstruels parce que dans le mois, on a 4 à 7 jours dans lesquels, pour certaines femmes, c'est une souffrance. Et il faut qu'elles le comprennent. Et on va revenir maintenant à Lydia, qui a repris sa vie.
Oui, j'ai repris ma vie normalement.
Ça fait 7 jours que l'opération a eu lieu. Et tu renais.
Je renais. J'ai tellement enthousiaste. J'ai commencé mes activités. Je suis vraiment allée à fond, quoi.
Ouais. Le fait d'être déchargée de ce fardeau.
Déchargée. Tout d'un coup, et j'y crois même pas.
Ouais.
Franchement, je me dis que si beaucoup de femmes savaient qu'il y avait une alternative pour éviter l'opération, elles auraient choisi l'embolisation.
Ouais, directement.
Voilà, parce qu'avec l'embolisation, tu peux faire tes enfants.
C'est
tu n'as plus de fibromes. Et je rappelle que tu n'as plus de récidive.
Plus de récidive.
Plus de récidive.
Et ça, c'est le professeur Yapo Paulette qui l'assure.
Qui l'assure.
Il n'y a plus de récidive.
Il n'y a plus de récidive parce que eux, c'est les artères qui nourrissent les fibromes. Donc, ils vont aux artères et ils sectionnent.
Exactement.
Alors que l'opération, c'est juste le fibrome qu'on enlève. Donc, il y a plusieurs récidives après. On peut se faire opérer plusieurs fois.
C'est ça.
Alors qu'avec l'embolisation, on n'entend plus parler de fibromes.
Et ça coûte cher, j'imagine.
Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher.
Combien?
Ça coûte 2 500 000 sans assurance.
Waouh.
Et 3 millions avec assurance.
Waouh. Qu'est-ce qui explique qu'avec l'assurance, c'est plus cher que sans assurance? Parce que ça, franchement, mais bon, j'imagine déjà le prix, parce que quand même, c'est une opération qui n'est pas donnée. Le prix n'est pas donné à tout le monde.
Oui.
Et forcément, ça peut être un frein pour certaines femmes qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir en bénéficier. Mais j'espère et je pense que peut-être dans les prochaines années, il y aura peut-être beaucoup plus de possibilités pour les femmes d'avoir des coûts réduits pour pouvoir bénéficier en fait de cette opération. Mais quand même, elle est beaucoup moins invasive.
Invasive.
Le lendemain, on récupère notre vie normalement. Voilà. On ne perd pas son utérus. Ça, c'est un avantage, c'est un gros avantage quand on a trop de fibromes en fait. Et c'est ce que tu as vécu.
On ne touche pas l'utérus. L'utérus reste intact.
Ouais.
Voilà, il reste intact.
Et donc là, ça fait 7 jours. Tu as repris ta vie. Tu ne sens plus rien dans ton ventre.
J'ai plus de douleur.
Plus de douleur.
Voilà.
Et pour revenir un peu à quand tu avais cette pathologie, comment ça a impacté ta vie sociale au-delà du travail? Parce que tu as parlé du travail. Je sais que tu adores le travail. Mais en dehors de ça, tu as ta famille, tu as tes amis, tu fais des sorties, tu as un compagnon. Comment ça a impacté ta vie sociale?
Ça a beaucoup impacté ma vie sociale parce que j'étais tout le temps avec des serviettes périodiques dans mon sac parce que je saignais tout le temps. Après, j'ai plus de règles. C'est-à-dire que je fais mes règles tous les jours.
C'est ça, c'était ta vie en fait.
Voilà, tous les jours, j'étais en sang. Voilà, mais j'ai eu un compagnon qui m'a beaucoup soutenue. Et même quand on m'a annoncé que j'allais me faire enlever l'utérus, il m'a dit qu'il est là, avec ou sans utérus.
Waouh, ça c'est énorme ça. Pas beaucoup d'hommes qui auraient dit pareil.
Voilà.
Parce que la possibilité de ne pas pouvoir enfanter, donc d'avoir sa compagne qui ne pourra pas enfanter, c'est déjà un choc. Donc elle perd son utérus également, c'est un choc supplémentaire. Et il t'a soutenue pendant cette période.
Voilà, il m'a beaucoup soutenue. On parlait tous les jours. Il voulait que je parle tous les jours. Donc, je ne suis pas rentrée en dépression.
Oui.
Je ne suis pas rentrée en dépression. J'étais bien. Seulement qu'avec mes amis, c'était un peu compliqué parce que je ne pouvais pas sortir.
Oui, tu ne peux pas aller à la piscine.
Enfin, je ne peux pas aller à la piscine. Je reste à la maison. Je suis tout le temps en train de me changer.
Tu étais anémiée parce que perdre le sang dans ces quantités-là, on est au bord tous les jours de l'anémie, en fait.
Voilà. Et malgré la prise de médicaments, les sangs, ça s'arrêtait pas. Ça s'empirait même. Voilà, jusqu'à un jour où je suis même tombée dans les pommes au travail.
Waouh.
Voilà.
Et là, tu as repris normalement?
Oui, depuis l'embolisation, je ne saigne plus. Tout a repris normalement pour moi. Je me sens vraiment bien. J'ai repris mes activités.
Et tu ne comptes plus travailler dans une entreprise?
Pour le moment, en tout cas, je ne compte plus travailler dans une entreprise. Je veux continuer mon business.
Voilà. Consacré à ça.
Voilà.
Et pour la suite,
parce
que quand tu as appris la nouvelle, déjà le choc, est-ce que envisager ne pas avoir des enfants déjà, c'était possible pour toi? Est-ce que le fait d'avoir des enfants, c'était une priorité pour toi à ce moment précis où tu apprenais la nouvelle? Et est-ce que par la suite, c'est la chose que tu vas faire tout de suite, c'est-à-dire que faire rapidement des enfants, qu'est-ce que tu as prévu de faire côté
bizarrement maternité? Cette expérience m'a boosté, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, parce qu'avant je pensais même pas à faire un enfant, c'était mon travail seulement, mais maintenant que je sais que je pouvais perdre mon utérus, je vois maintenant son importance.
Ah ça, c'est fort. Donc là c'est en projet là dans les prochaines années et tout.
Voilà. Je peux même commencer déjà à prévoir faire un enfant dans 6 mois, dans 1 an. Après une IRM, mon IRM va me révéler que j'ai plus de fibromes.
Ouais.
Je vous enverrai le résultat.
Je serai à l'écoute et je serai heureuse de le recevoir parce que tu as eu la vie sauve. Une opération chirurgicale, pardon, ce n'est pas anodin. Même quand on fait une j'ai une perte de mémoire. Ah, c'est fou, là. Lorsqu'on retire l'enfant du...
Pourtant, j'en ai
fait une césarienne. J'ai fait une césarienne en plus, c'est fou. Lorsqu'on fait une césarienne, c'est pareil, hein, on est carrément entre la vie et la mort. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas anodin. Et le fait de savoir que pour ce type de pathologie, en Côte d'Ivoire, il y a la Côte d'Ivoire qui fait cette intervention unique dans l'Afrique de l'Ouest et que c'est une femme qui est la seule experte dans ce domaine en Afrique de l'Ouest, c'est déjà rassurant de le savoir. C'est déjà rassurant de le savoir. Et c'est important d'en parler, comme tu as décidé de le faire. Donc, qu'est-ce que tu as prévu dans les prochaines semaines, en parler autour de toi? Bientôt, c'est, je veux dire, au-delà de ça, parler dans ton entourage, dans des conférences, porter la voix.
J'ai déjà commencé. Mm-hmm. J'ai eu plusieurs témoignages. Actuellement, je parle avec des personnes qui ont perdu leur utérus. Je parle avec beaucoup de femmes qui ont des fibromes. Mm-hmm. J'informe autour de moi. Oui. Elles sont toutes surprises parce qu'elles disent qu'elles n'ont jamais entendu parler d'embolisation. Et je profite aussi de l'antenne pour informer la population, pour que les docteurs aussi en parlent. Parce qu'on ne peut pas proposer seulement l'opération à une femme et lui dire qu'on peut lui enlever l'utérus, surtout que l'opération même peut conduire à une ablation.
C'est ça.
Alors qu'il y a une méthode qui est là, l'embolisation se fait en Côte d'Ivoire et elle est sans risque. 99% de réussite, 1% d'échec.
Exactement.
Voilà, donc c'est tellement avantageux. L'utérus n'est vraiment pas touché. On peut faire des enfants, on est réglé, on a nos cycles normalement. En tout cas, la vie reprend son cours normalement. Donc, j'incite beaucoup les docteurs à privilégier aussi cette voie et former les femmes. Dire aux femmes qu'elles ont la possibilité de choisir, elles ont la possibilité de garder leur utérus.
Il faut que les médecins, même les gynécologues, soient beaucoup plus informés de l'existence même de cette procédure médicale, de cette intervention chirurgicale qui existe, qui est possible. C'est vrai qu'il n'y a pas, malheureusement, c'est la seule praticienne qui le fait.
Elle est très accessible.
Elle est en train de former d'autres.
Oui, elle forme d'autres personnes. Elle est très accessible. Vous pouvez l'appeler, elle va prendre rendez-vous rapidement avec vous. Elle va regarder votre IRM. Si c'est OK, elle vous dira qu'elle peut le faire.
Le docteur Yapol Paulette, elle est dans quel hôpital ou...
Elle est au CHU de Trècheville. C'est la responsable du service de radiologie du CHU de Trècheville.
Okay.
Elle est professeure en radiologie. Voilà. Donc, elle consulte là-bas, mais elle peut vous prendre ailleurs, comme à l'Indénier, à la Pisa, à Farah.
Voilà. Elle est disponible. Rapide question. Donc, tu ne sais pas encore parce que tu n'as pas encore eu ton cycle. Dans ce que le professeur t'a dit, après l'opération, ton cycle sera normal.
Oui.
Tu n'auras plus de saignement abondant. Tu vas avoir un vrai cycle normal.
Oui, je suis rassurée parce que je n'ai même plus de saignement.
Ok.
En dehors de mes règles. Actuellement, je ne connais plus mon cycle parce que.
Ouais, ça a tout été un peu chamboulé.
Mon dernier cycle remonte à bien longtemps et je ne sais même plus. Donc j'attends maintenant
parce
mon
cycle. Parce que tu perdais que du sang en fait. Voilà, donc tu ne sais même plus c'était quoi ton cycle.
Voilà.
La durée de ton cycle.
Voilà. Finalement. Donc maintenant. J'attends, comme ça fait juste 7 jours que j'ai fait mon intervention. J'attends maintenant que mes règles viennent. Mais hier, j'ai assisté à la vidéo de mon intervention. J'ai vu tout ce qui s'est passé.
On te l'a redonné?
Oui, on m'a donné l'image. Donc, j'ai vu actuellement comment étaient mes fibromes avant et comment c'est devenu maintenant. Et
ça pesait combien de kilos, on t'a dit?
Je peux pas dire des kilos. Je peux pas, parce qu'ils n'ont pas enlevé.
Oui.
Voilà.
Ah oui, c'est vrai. Ils ont asséché, oui.
Voilà, ils ont asséché les fibromes, mais les fibromes meurent.
Oui.
Voilà. Au fil des jours, pendant mes règles, je vais voir des caillots de sang sortis, ou bien je vais voir de la glaire. Voilà.
Mais ça ne sera pas douloureux, ça sera juste une évacuation.
Une évacuation. C'est ce qui est bon avec l'embolisation parce qu'il n'y a pas de vêtue de l'abdomen. Il n'y a pas d'opération. Voilà.
C'est franchement une très bonne nouvelle. C'est une super nouvelle. On est heureux. On est heureuse pour toi. On est heureuse de savoir que. Tu as pu sortir de là sans problème, sans difficulté. Tu n'as pas eu à subir une intervention qui t'aurait, on va dire, handicapé pendant des jours, qui t'aurait causé d'autres douleurs et peut-être qu'il n'aurait pas été une réussite parce que bon, après, ça repousse malheureusement puisqu'il y a toujours du sang qui alimente en fait les fibromes. En tout cas, merci. Merci Lydia.
Merci aussi à vous.
Pour ton témoignage. Merci d'avoir porté ce message d'espoir à toutes ces femmes qui nous écoutent et qui sont certainement dans cette situation et qui finalement savent que il y a une meilleure solution qui est possible. Tu as un dernier mot?
Oui, c'est de dire aux femmes qu'elles ont elles ont la chance. Maintenant, zéro fibrome, quoi. Zéro fibrome.
La fin des fibromes, la guerre aux fibromes.
Voilà. On fait la guerre aux fibromes. Et je voulais rappeler aussi un truc, c'est que les femmes évitent d'utiliser les médicaments traditionnels pour les fibromes. Ça ne va pas guérir. Oui. Elles vont juste se faire foutre le...
Oui, bien sûr. Ouais.
Voilà.
Détruit les reins.
Elles vont se détruire les reins.
Parce qu'il n'y a pas de posologie.
Elles vont se détruire les... et puis elles vont aggraver encore la recrudescence des fibromes. Donc elles arrêtent les traitements traditionnels.
Ouais.
Voilà. Elles vont, elles pètent que le temps, quoi.
Ouais. Voilà. En tout cas, merci infiniment, Lydia. Merci pour tout. C'était un plaisir de te recevoir, un plaisir d'échanger avec toi et on se retrouve peut-être prochainement sous d'autres, comment dire, d'autres conférences, d'autres lieux où tu pourras certainement passer ton message et j'en suis certaine. Merci à nos auditrices et à nos éditeurs pour leur fidélité à Woman Up chaque samedi de 14h à 15h. C'est toujours un plaisir de vous avoir. On se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain. D'ici là, restez connectés. Vous êtes bien sur Life Radio, la 107.7. On ne change surtout pas de fréquence. Excellent week-end.